Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonjour à tous et bienvenue pour le flash score du week-end. On va parler de foot, de rugby, de handball et de judo en fin de flash, puisque deux judokas de la couronne étaient du côté de Malaga en Espagne. Donc on va voir ce qu'elles ont fait. On va commencer par le football et la Coupe de France avec trois représentants charentais au sixième tour de cette Coupe de France, avec l'objectif de rallier le tirage national qui aura lieu mercredi du côté de Clairefontaine. Premier match, c'était la CFC. La CFC qui recevait Porte entre deux mers, une équipe de National 3 et une qualification 3-2 de la CFC. Un match qui a été complètement fou, notamment en seconde mi-temps, puisque la CFC a mené puis s'est fait rattraper avant de reprendre l'avantage. Et heureusement, Patrick Sincheux, le gardien d'Angoulême, a arrêté un penalty à la dernière minute. Angoulême démarre le match fort avec trois énormes parades du gardien adverse et puis une barre transversale trouvée par Arnaud Buisson. Et finalement, c'est contre le cours de jeu que Porte entre deux mers va ouvrir le score. S'ensuit une égalisation juste avant la mi-temps, signée Benjamin Barque. Et en seconde mi-temps, la CFC reprend rapidement l'avantage grâce au but de Léo Fichten, un avantage de courte minute, puisque deux minutes plus tard, Talensi, d'une superbe frappe pleine lucarne, remet Porte entre deux mers à égalité. Et finalement, la décision va venir du but d'André Patrick Kayoubi, qui va permettre à la CFC de mener 3-2. En fin de match, Porte entre deux mers obtient un penalty dans le temps additionnel et Patrick Sincheux se charge d'arrêter le penalty qui envoie la CFC au 7e tour. D'ailleurs, un match décrypté par David Higuel, l'entraîneur de la CFC que nous avons rencontré à l'issue du match. On l'écoute tout de suite.
David, qualification au 7e tour, au terme d'un match épique, 3-2 contre Porte entre deux mers. Déjà, première réaction, qualifié au 7e tour, le contrat est rempli.
Ouais, c'était l'objectif numéro 1. On sait que la coupe, ça donne quelquefois des matchs irrationnels, j'ai envie de dire. Donc voilà, on se qualifie, on est au 7e tour. Et ça, il faut le souligner parce que c'est une bonne performance de se qualifier pour le 7e tour. Et j'avais dit aux joueurs que c'était ce qu'on retiendrait de ce match-là. Donc on va retenir d'abord cette qualification qui est l'essentielle, et puis on va attendre le tirage lundi.
Un match à découper en plusieurs phases. La première phase, c'est les 25 premières minutes où vous marchez pratiquement sur cette équipe de Porte entre deux mers. Il y a quatre énormes occasions avec un gardien qui s'est mis en valeur, la barre transversale aussi qui n'a pas été de votre côté. Et il y a ce but de Porte entre deux mers. Forcément, c'est frustrant d'encaisser le premier but après autant d'occasions.
Oui, on a très très bien débuté le match, mais malheureusement on a manqué de réalisme dans nos deux surfaces. D'une part, effectivement, on a des occasions qu'on doit transformer, même si on sait tous que le plus compliqué dans le foot, c'est justement de les mettre au fond. Mais bon, sur les 3 ou 4 qu'on a, on doit au moins en mettre une. Et puis dans notre surface de réparation à nous aussi, ils sont pas venus souvent. Je crois qu'ils ont dû venir qu'une fois ou deux dans ces 30 premières minutes. Et on prend un but, donc on s'est mis un peu en difficulté tout seul. Après, ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est qu'on a su bien réagir. Voilà, le fait d'égaliser juste avant la mi-temps, c'est plutôt une bonne chose. Les gars ont pas lâché, se sont révoltés, et ça nous a permis de revenir et puis de gagner.
Oui, justement, vous marquez donc en fin de première mi-temps et puis surtout en début de deuxième mi-temps, dans des moments qui sont quand même stratégiques dans des matchs. Et Porte entre deux mers égalise sur un exploit personnel, une frappe pleine lucarne. Et puis après, on est parti vraiment pour un match complètement fou.
Ouais, on doit faire preuve de beaucoup plus de maturité, notamment quand on réussit à repasser devant au niveau du score. Là, on doit fermer pendant une dizaine de minutes.
C'est vrai qu'on pense à ce moment-là que vous avez fait pratiquement le plus dur.
Ouais, mais peut-être que les joueurs l'ont pensé aussi sur le terrain. Donc ça, c'est voilà, on doit une fois qu'on a marqué dans ce genre de match, être capable de fermer, de fermer les espaces, de bloquer l'équipe adverse pendant au moins une dizaine de minutes, un quart d'heure. Et puis après, on aurait pu profiter de contre parce que cette équipe se serait beaucoup plus ouverte. Donc on a manqué un peu de maturité et on n'a pas bien maîtrisé une fois qu'on a mené au score. C'est dommage parce que ça puise un peu aussi dans l'énergie mentale, parce que jusqu'au bout, on est obligé de lutter. Et heureusement, Pat nous sort un bel exploit sur le penalty, même s'il n'y avait pas penalty sur le coup, puisque Benji touche pas le gars, mais heureusement Pat a été très très inspiré sur le coup. Et on a la chance d'avoir deux bons gardiens. Alan, quand il est là avec nous en championnat, est très performant. Pat aussi est très performant. Ils sont tous les deux très performants à la fois à l'entraînement et en match. Donc c'est plutôt un bonheur de pouvoir fonctionner avec deux gardiens de cette qualité. Et on est bien content de les avoir.
D'ailleurs, on voit que Pat a joué la Coupe de France plus et Alan le championnat. C'était un deal passé entre le staff et les deux gardiens, c'est-à-dire que Pat était sur la Coupe de France.
Non, c'était pas un deal au départ. quand on a décidé de recruter Pat, je lui avais dit que tout dépendrait de comment ça allait fonctionner, comment ils allaient se comporter tous les deux. Il s'avère que Pat est très très bien à l'entraînement, est très performant, il a une très très bonne mentalité, il bosse bien. Donc il joue la Coupe de France et si tout continue de se passer comme ça se passe actuellement, il jouera les prochains tours parce que, encore une fois, quand on travaille et quand on a un état d'esprit comme il peut l'avoir lui, c'est normal d'être récompensé. Mais encore une fois, Alan est aussi un gardien de qualité et il bosse aussi très bien en ce moment. Donc c'est plutôt une chance d'avoir des gardiens de cette qualité-là.
Et puis dans le match à 20 minutes de la fin, donc Coco Lemoni rentre, Godfred Bécoué rentre également, et tu passes en 3-5-2, finalement un choix gagnant puisque Léo donc lance Noah qui décale en retrait sur Patrick Kayubi qui était donc en position de piston. C'est un choix, un coaching gagnant, on peut le dire.
Ouais, il faut toujours un peu de réussite dans ces cas-là, mais Alan n'avait pas joué depuis longtemps, Alan Ogel. Paul commençait à fatiguer et puis on voyait avec le staff qu'ils étaient dangereux sur les contres parce qu'ils avaient deux attaquants, donc on a décidé faire rentrer Coco pour mettre une supériorité numérique derrière et puis effectivement pour pouvoir bénéficier de l'apport offensif de Pat Kayubi d'un côté et de Yo de l'autre. Ça a été plutôt payant puisqu'on s'est créé des situations et puis sur le coup effectivement Noah fait un bel effort sur le côté et Pat est là pour marquer. Donc voilà,
c'était la soirée des pattes.
Ouais, c'est la soirée des pattes. Ouais. Non, mais ça se termine bien, tant mieux pour nous. Mais encore une fois, il faudra retenir aussi qu'il faut être beaucoup plus mature dans ce genre de rencontre parce que non seulement le niveau des équipes s'élève, mais les tours passent et plus on passe de tours, plus les équipes qui sont là sont d'un niveau important. Donc il faudra sur le prochain tour, quel que soit l'adversaire, il faudra être encore plus exigeant et encore plus mature dans la façon d'aborder les différentes situations du match.
La semaine prochaine, donc, la SFC se déplacera à Angers, retour au championnat. Qu'est-ce qu'on apprend comme leçon sur ces tours de Coupe de France où vous avez été à chaque fois mené, mais vous avez quand même réussi à vous qualifier avant les pénaltys?
Ouais, on a eu à chaque fois à gérer la position de favori, ce qui est jamais simple, quel que soit le niveau dans lequel on joue. Il faut avoir des attitudes particulières, il faut avoir une approche particulière de ce genre de match où on se dit que si on se fait éliminer, on est un peu les coulons de l'histoire. Mais il faut mieux l'aborder. Et puis il va falloir aussi qu'on soit beaucoup plus efficace à Angers parce que c'est une équipe de qualité qui a fait de très bons résultats jusqu'à présent. Donc il faudra beaucoup mieux défendre ensemble parce que c'est pas que les défenseurs, il faudra beaucoup mieux défendre ensemble pour pouvoir ramener un résultat d'Angers parce que si on défend à moitié, ce sera compliqué de revenir avec des points.
Les deux autres Charentais pensionnaires de Régional 2 jouaient dimanche. Charente-Limousine était du côté de Choré, une R1, donc un tirage forcément compliqué pour les Charentais. Malheureusement, défaite 3-0, mais il y avait quand même 0-0 à la mi-temps, donc une belle résistance pour Charente-Limousine qui sort de la Coupe de France la tête haute. Et 3-0, ça a été aussi le score du match de Merpin. Merpin, dont on va recevoir l'entraîneur dans quelques minutes dans Culture Sport. Merpin s'impose 3-0 contre le FC Occitane. Et Merpin donc verra le 7e tour pour la première fois de son histoire. Donc c'est une qualification historique pour les banlieusards cognacés. Et donc nous aurons deux Charentais au 7e tour. Ça n'était pas arrivé depuis 3 ans, puisque la CFC et Siroy avaient rallié le 7e tour lors de cette saison. En championnat de Régional 1, la réserve de la CFC s'est déplacée à Saint-Médard-des-Rang. Un déplacement face à un choc des extrêmes. Hein. La CFC était première, Saint-Médard-des-Rang dernier. Certes, un classement tronqué par les matchs en retard. Un partout, score final. Ouverture du score de Noah Marchesso sur penalty. Peu avant la demi-heure de jeu, égalisation en deuxième mi-temps des Girondins. Un match nul logique. Hein. Angoulême a eu la première mi-temps. Saint-Médard-des-Rang a eu la deuxième mi-temps. Un partout, au final, un score logique. La réserve de la CFC reste première avec 8 points en 4 journées. En Régional 2 en poule A, courte défaite de Leroy 1-0 du côté du Talu. Malheureusement, Leroy est dernier avec 1 point. En poule B, les deux Charentais qui devaient jouer ont été reportés hein, puisqu'il s'agissait de Charente-Limousine et de Merpin. Charente-Limousine qui devait affronter Cognac, donc Cognac aussi n'a pas joué. Et enfin en poule D, super comportement des Charentais hein, puisque Sierreuil concède le match nul un partout contre Médoc Atlantique, mais dans le même temps Jarnac va s'imposer à Saint-André de Cubzac 4-3. Sierreuil est premier du classement, Jarnac est sixième avec 6 points, un classement qui reste très serré, mais en tout cas les Charentais ont pris un bon départ dans cette poule. En Régional 3 en poule C, match nul de Ruffec à domicile contre Noyer, un partout. Malheureusement défaite de Confolens 3-0 contre Limoges. Au classement, C'est Limoges qui est en tête avec 12 points, 4 victoires en 4 matchs. Ruffec qui est 3e avec 7 points. Et malheureusement, Confolens est 11e et avant-dernier avec un seul point. Enfin, en poule F, Ruel, qui était mené 3-0 à domicile sur sa pelouse par Saint-Julien, l'emporte 4-3. Vraiment une super remontée de la part des hommes de Charlie Saboureau. Dans le même temps, Saint-Aix l'emporte 2-0 à La Roche-Rivière. Vindel s'incline 3-2 chez le leader Ribérac. Et enfin, Pimoyen et Soyaux se quittent sur un score nul, 3 partout. Au classement, Saint-Aix est 2e avec 12 points. Pimoyen est 5e avec 5 points. Ruel est 6e avec 5 points. Soyaux est 7e avec 4 points. La Roche-Rivière est 9e avec 4 points. Et enfin, Vindel est 11e avec 3 points. On va parler rapidement de district avec la D1, les résultats de la D1. Roulet et les Sacs font 1 partout. Brie bat Moutier 3-1. Merpin bat les Portugais d'Angoulême 2-1. Basso gagne à Leroy 4-1. Saint-Michel gagne à l'Alliance 3B 4-1. Et enfin, Champigny gagne également à l'extérieur du côté de la Couronne 4-2. Au classement, c'est Saint-Michel, la formation de Jenny Camus, qui est en tête. 12 points, 4 victoires, 4 matchs. En bas du tableau, l'Alliance 3B et Leroy ne comptent que 2 points. Donc compliqué pour ces réserves d'équipes qui évoluent au niveau régional. En D2, en poule A, Chasseneuil bat Aigre 3-0. Saint-Aix bat Ruffec 4-1. Verdi bat Bélair 3-1. La Roche-Rivière bat Gagnin Montbron 1-0. Mornac bat Mansle 2-1. Et enfin, Sireuil bat Charente-Limousine 4-1. Au classement, Sireuil est en tête avec 10 points devant Mornac 8 points. En poule B, enfin, Sud-Charente et Châteauneuf font 1 partout. Grande-Champagne bat Gagnin Nersac 1-0. Champigny bat Chazelle 3-2. Saint-Brice bat Ruel 2-0. Linard bat Montmoreau 3-1. Et Jarnac s'incline 3-2 sur sa pelouse face à Saint-Séverin-Palou. Au classement, Linard et Grande-Champagne sont tous les deux en tête avec 12 points. Troisième Saint-Brice avec 9 points. On va parler de D1 féminine avec la SJ Soyaux qui recevait Le Havre. Un match important pour les filles de Soyaux. D'autant plus qu'elles ont changé d'entraîneur cette semaine puisque Michel Bradaya a succédé à Stéphane Guigaud. Malheureusement, défaite de Soyaux à domicile contre Le Havre 4-1. Une défaite logique au final. Le Havre a été vraiment hyper tranchant sur le plan offensif et mérite sa victoire. Pour Soyaux, il faudra aller faire un résultat du côté de Dijon lors de la prochaine journée. Les résultats de cette D1, le Paris FC et Reims font 2 partout, le PSG bat Dijon 3-1, donc Soyaux s'incline contre Le Havre 4-1, Guingamp s'incline à domicile contre Montpellier 4-1, Rodez bat Fleury 2-1, et enfin Lyon a battu Bordeaux 3-1. Au classement, Lyon est première avec 15 points, deuxième Paris Saint-Germain 13 points et troisième le Paris FC 11 points. Soyaux est 9e avec 4 points et compte 1 point d'avance sur la zone rouge. On va rappeler les résultats du SA15. On en parlait avec Fred juste avant. Le SA15 s'impose contre Carcassonne 18-6. En national, Cognac s'incline à nouveau à Blagnac 32-13. Malheureusement pour Cognac, c'est un 6e revers consécutif. Donc, saison compliquée pour l'UCS. Et enfin, l'UBJ signe sa première victoire à domicile contre Bergerac, 18-16 en Fédéral 1. Un mot de handball également avec de la Nationale 1 féminine, avec malheureusement deux défaites pour les Charentais, puisque Cognac s'incline à domicile contre Mérignac 28-25, et l'ACH s'incline également à domicile contre Montluçon 26-23. Au classement, l'ACH reste 3e malgré tout, avec 11 points, et Cognac malheureusement est 13e et dernière avec 4 points. En basket, malheureusement défaite également pour les filles de la Couronne qui se déplaçaient aux Herbiers en National 3 féminine, défaite 52-46. La Couronne est 11e avec 6 points. Un début de saison donc compliqué pour les couronnaises. On va terminer par le judo en commençant par le circuit régional minime d'Essine, donc en banlieue de Bordeaux, avec pas mal de bons résultats pour les couronnés, puisque Théo Tresson termine premier en plus de 73 kg, Dria Bester termine première en moins de 36 kg, Adam Tresson termine deuxième en plus de 73, ça a été une finale Tresson contre Tresson, Sinaï Dovi termine troisième en moins de 66 kg, Yanaël Boablo termine cinquième en moins de 42 kg, Vincent Allais termine cinquième en moins de 60 kg, Alissa Bujon est non classée en moins de 48 kg, Inaya Karim est non classée en moins de 52 kg, Maël Bichon est non classé en moins de 57 kg, et enfin Timothée Calandre est non classé en moins de 60 kg. Et puis donc il y avait donc deux couronnaises du côté de Malaga en Espagne, avec une belle cinquième place pour Morgane Artuis qui était montée sur le podium à Cellier il y a deux semaines. Là elle termine cinquième, c'est plutôt un bon résultat. Morgane Artuis qui bat Sommer, l'Autrichienne, lors de son premier combat. Elle bat ensuite la Finlandaise Matikainen pour se retrouver en demi-finale. Et malheureusement, elle s'incline contre la Hollandaise Buvalda. Et en place de 3, elle s'incline contre l'Italienne Avanzato. Du côté de Julie Pierret, deuxième à Sellier, elle remonte sur le podium puisqu'elle termine à nouveau deuxième de cette European Cup. Donc elle bat au premier tour l'Espagnol Rodriguez Pérez pour se retrouver en demi-finale contre une autre Française, Cari Engoso-Silo. Et donc en finale, elle affronte Chloé Dolin. Donc une finale 100% tricolore et malheureusement c'est Chloé Dolin qui l'emporte. Et donc Julie Pierret s'adjuge une nouvelle seconde place. Tout de suite, place à Culture Sport avec l'interview de Romain Rigallo. On va parler de beaucoup de choses avec Romain, notamment du club de l'AS Merpin qui évolue en Régional 2. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbeuse et Cognac, 90.7 pardon à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons Romain Rigallo. Romain, bienvenue.
Merci beaucoup, bonsoir, merci.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un du club, donc la dernière fois, je crois que ça a remonté à 2 saisons, et c'est toujours un plaisir d'accueillir Merpin auprès de notre antenne. Avec nous est présent ce soir en studio Christian, donc qui est là donc pour nous seconder dans l'émission. Christian, bonsoir.
Salut Didier, on va parler de foot, donc moi c'est mon sport de prédilection, donc je suis impatient d'échanger avec Romain.
Parfait, ben je te laisse ce soin de lancer le débat, Christian.
Bah écoute, oui, on va parler des choses d'actualité, c'est-à-dire de la Coupe de France, puisque pour 3 clubs charentais, ça fait que c'est un excellent cru pour le département, parce qu'en général, on en a 1, voire 2 quand ça rigole bien, et là, cette fois, il y en a 3, dont Merpin qui est entré au lice au premier tour. Bon, j'imagine que Romain, déjà, l'objectif de la Coupe de France, c'était de rallier le 4e tour pour avoir les maillots, donc ça doit dépasser toutes vos attentes.
Oui, tout à fait, ouais. Effectivement, on s'était fixé comme objectif les maillots, donc le 4e tour. C'était chose faite. Bon, à chaque fois, on a eu un tirage clément avec des équipes de district, même si c'est vraiment pas facile, surtout avec les terrains dans l'état où ils sont. On a à chaque fois respecté l'adversaire et on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Et à chaque fois, on est passé. Et oui, d'arriver au 6e tour, ça fait toujours plaisir pour un club. On égalise le record en plus du club qui date de 2000 contre Brive, oui, qu'ils avaient perdu. Donc, on va essayer de faire encore mieux.
En tant qu'adjoint ou que joueur, t'avais déjà fait des parcours auparavant?
Non. J'ai à part en Gambardella, mais sinon j'ai arrêté assez tôt le foot pour des problèmes musculaires, on va dire. Donc non, c'est la première fois en tant qu'entraîneur en tout cas.
Donc pour reprendre rapidement votre parcours, donc vous rentrez dès le premier tour de cette Coupe de France, donc fin août, avec un déplacement en Charente-Maritime du côté de Pont, qui est une D2, je crois. Victoire 2-0. Après, vous enchaînez le week-end suivant par un déplacement à Cluset, une D3 des Deux-Sèvres. Vous gagnez 2-1. Donc on voit vraiment que la Coupe de France, c'est sur un match, hein, tout peut arriver. En plus, il n'y a plus de prolongation. Petite question par rapport à ça. Les prolongations, la suppression, est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou est-ce qu'on aime bien finalement ces 30 minutes supplémentaires quand on est le gros pour faire la différence qu'on n'a pas réussi à faire durant le temps réglementaire?
Moi, j'aime plutôt bien parce que comme ça, on se pose pas de questions. C'est vraiment que 90 minutes. Après, forcément, quand on est le plus petit, on joue un peu là-dessus. Quand on est le plus gros, on se dit faut pas aller aux prolongations parce qu'après c'est la loterie, c'est une chance sur deux. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Non, au contraire, directement tir au but. Puis là, petit à petit, on commence à être le plus petit justement au 6e tour.
Oui, tout à fait. C'est ça d'ailleurs le charme de la Coupe de France parce qu'on rentre, on est l'équipe. Bon, peut-être que c'est un peu abusé de dire ça, mais en tout cas, on est l'équipe que tout le monde veut affronter parce que une régionale 2, mine de rien, quand on est en D1, en D2 ou en D3, c'est quand même une belle affiche. Plus les tours passent, plus on voit les rentrées des National 3, des National 2, et là, on se prend à rêver finalement d'affronter ces grosses équipes à domicile. C'est ça aussi le charme de la Coupe de France.
Ah oui, c'est clair. En fait, quand on arrive à ce stade-là, on se dit qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir un petit, même si les petits, attention, c'est très compliqué, très très dur.
Oui, bien sûr.
Pour passer un tour, ou justement on se dit on veut jouer un gros et puis viendra ce qui arrivera, on va tout donner et puis si on perd c'est pas grave, on aura bien profité. Mais Il y a voilà, il y a ce côté gros ou petit, mais bon, bah, c'est la loi du tirage. Là, c'est en l'occurrence c'est le petit poussé, mais encore une fois, ça veut rien dire du tout. On l'a vu justement dans nos résultats avant.
Au troisième tour, donc vous affrontez Koutra, qui est une D2 également, et bah, vous qualifiez au penalty 0-0 à l'issue des 90 minutes et vous gagnez 4 tirs au but à 2, donc une séance des pénaux qui vous a souri. Et après, donc on arrive à ce fameux quatrième tour avec donc les dotations, les maillots de la Coupe de France. Et puis on arrive surtout dans l'alternance Coupe Championnat où vous avez démarré votre championnat. Et donc il y a ce match à Faux qui est une D1 qui avait sorti notamment l'équipe de Cestas qui est quand même en R1. Et bah, vous avez bien déjoué le piège puisque vous gagnez 5-0 ce quatrième tour. Et donc au cinquième tour, vous recevez Cause dans un derby de Régional 2 contre en plus une équipe de votre pool et vous l'emportez 2-0. D'affronter Cause en Coupe de France, c'est forcément différent de les affronter en championnat?
Oui, c'est forcément différent, oui, tout à fait. Parce qu'à la fin, il n'y a qu'un vainqueur en championnat. On se dit, bon, bah, si c'est perdu, on a zéro point. Mais là, en plus, on restait sur l'année dernière, on avait perdu 3-0 chez nous et 2-0 là-bas. En plus, ils étaient au-dessus de nous sur les deux matchs. Il y avait, en plus de ce match de coupe, il y avait une revanche aussi à prendre par rapport à l'année dernière. Et ils ont loupé la montée de très très peu la dernière journée. Pour moi, c'est une équipe quand même de R1, Cause.
Ouais, et puis qui était en N3 il y a quelques saisons encore.
Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais ça n'a pas été le match le plus dur, hein. Moi, je dirais que les matchs les plus durs, c'était justement les matchs d'avant. Où, on est à l'extérieur sur des terrains très très compliqués. Et bah, c'est compliqué de faire le jeu, de développer du jeu, surtout que nous, on aime jouer au ballon. C'était, on va dire, plus facile, même si, voilà, on ressemble beaucoup plus à Cause. Il vaut mieux jouer une équipe qui est joueuse, qui joue au ballon, comme Cause, qu'une équipe où le terrain est compliqué et ça joue pas forcément au ballon. Voilà pourquoi on est en difficulté face à des équipes.
D'ailleurs, ton discours d'avant-match, j'imagine qu'il évolue en fonction de l'adversaire. Il y a quand même de la pression d'aller, par exemple, à Koutra, parce que, bon, de se faire sortir par une des deux, ça fait quand même, entre guillemets, tâche. Est-ce que ton discours évolue par rapport à l'adversité que vous allez avoir sur le terrain juste après?
Non, surtout c'est de respecter l'adversaire. Voilà, normalement quand on a des divisions au-dessus, on est censé passer, et à partir du moment où on respecte, c'est-à-dire que on n'arrive pas en faisant les fanfarons, ou ben faut élever son niveau de jeu, faut faire voir qu'on joue au-dessus. Et non, mon discours il change pas. Après le plan de jeu peut changer en fonction du terrain ou des joueurs qu'il y a en face, hein, mais sinon mon discours il change pas, non.
Et puis ce match de Cause, donc vous gagnez 2-0. Ça vous a aussi permis de jouer à domicile en Coupe de France. C'est vrai que, bon, généralement, on dit que le bon tirage, c'est quand on est qualifié, mais c'est aussi le bonheur de jouer à domicile, surtout quand c'est un cinquième tour. J'imagine que d'aller jouer sur le terrain de Cause, ça aurait été complètement différent pour toi.
Ah oui, ça aurait été complètement différent. Là, en plus, ça faisait 4 tours que si on était à l'extérieur, on a fait pas mal de départements. C'était important de recevoir, mais on était quasiment sûr de recevoir parce que...
Oui.
Parce que voilà, on avait toujours été à l'extérieur. Donc,
C'est vrai qu'il y a la règle sur les tirages au sort que quand on s'est déplacé et qu'on est tiré en deuxième, mais que l'équipe qui est tirée en première a reçu, ils inversent la rencontre.
Oui, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
Parce que Cause avait joué contre à domicile sur le tour d'avant.
Oui, c'est ça.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Romain Rigano qui répond aux questions de Christian.
On est arrivé lundi soir, tous devant notre écran, et malheureusement ça a bugué, c'est les aléas du direct, on va dire, avec donc ce tirage au sort du 6e tour, avec 3 Charentais encore en lice, et ben, vous avez tiré le fameux petit poussé. Donc c'est le FC Occitane, une D1 d'Haute-Vienne, une D1 quand même qui a sorti La Rochelle 2-0 au tour précédent, donc c'est hyper impressionnant. Sans forcément parler de bon ou de mauvais tirage, comment tu appréhendes ce tirage?
Bah, sur le coup, on s'est dit que jouer le petit poussé, on se dit que c'est plutôt bien, hein, voilà. Après, on se dit si on se fait sortir, bah, je reviens sur ce qu'on disait avant. Hein.
Oui.
Bah, forcément, on sera déçu. On aurait préféré peut-être jouer Angoulême ou quoi, se faire sortir par une plus grosse équipe, mais sur le coup, je savais pas trop. J'avais l'idée d'appeler justement La Rochelle et puis même l'image Lafarge, une R2 qu'ils ont sorti aussi avant pour avoir des renseignements, pour comprendre justement, parce qu'ils ont sorti quand même une R1, une R2 chez eux. Et voilà, c'était surtout ça que je voulais faire pour vite me projeter sur le match de dimanche.
On va parler un peu du championnat tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est dans une période où les matchs de championnat de niveau ligue s'enchaînent. Et les équipes qui sont donc qualifiées en Coupe de France voient leur match reporté. Ça veut dire que quand tes collègues de Régional 2 jouent en Régional 2, toi t'es en Coupe de France. Comment? Donc ça veut dire qu'il y a des matchs en retard. Comment tu penses gérer ça? Parce que finalement c'est une situation qui est un peu inédite.
Ouais, c'est très dur à gérer en fait, parce que dans le classement on voit que bon, on n'avance pas, on se fait même doubler. Hein, on voit que oui, on a deux matchs de retard, là ça fera trois. Mais bon, c'est quand même zéro point à chaque fois. Les trois matchs, faut en gagner. Et sachant qu'il y a quatre descentes, quatre et demi même, on va dire. La coupe, c'est bien, c'est super pour le club, pour les joueurs, pour tout le monde. Mais quand ça sera fini, il faudra vite se pencher sur le championnat. Et justement, ces matchs en retard vont être très très importants pour très vite se sauver.
En termes de calendrier, ça va s'organiser comment, Romain ?
Alors pour l'instant, ils ont juste mis les matchs reportés. Pour l'instant, il n'y a pas de date de rattrapage.
D'accord.
Mais ça va être. On va le savoir bientôt. On va le savoir bientôt.
Oui, vous allez peut-être finir un peu plus tard en décembre et reprendre un peu plus tôt en janvier.
C'est ça, oui, oui, oui.
Toi, tu arrives à Merpin. Enfin, c'est ta troisième saison en tant qu'entraîneur. On va dire vraiment deuxième, puisque la première avait été vraiment impactée par le Covid. Il y avait eu à peine 3 ou 4 matchs de championnat. Tu arrives en plus dans un groupe qui est en pleine dynamique positive, puisque Merpin était en D1. Ils ont fait le saut pour monter en R3, et puis là ils sont même montés en R2. D'arriver dans un groupe qui fonctionne bien, en plus avec beaucoup de joueurs que tu avais croisés du côté de Cognac, est-ce que c'est un avantage quand on est coach?
Oui, c'est sûr, quand on connaît les joueurs, même les dirigeants et tout, c'est plus facile de s'intégrer. Et puis après, bon, en plus le jeu qu'on veut mettre en place, ça leur convient, donc c'est beaucoup plus facile effectivement, par rapport aux entraînements, par rapport aux matchs. Le discours, je pense, passe bien vu nos résultats. Il faut que ça continue, il faut que ça dure, oui.
Ouais, et puis c'est vrai que les premiers matchs avant le Covid ont été compliqués. Il n'y avait pas forcément eu beaucoup de victoires, ouais. mais l'an dernier vous avez réussi à vous maintenir. Donc c'est vraiment important de garder ce cap de la Régionale 2.
Oui, c'était important. Quand je suis arrivé, on a voulu changer un petit peu forcément, quand on change d'entraîneur, on veut changer de style de jeu. Enfin, chacun voit le football comme il veut, mais donc, on a fait monter un peu plus le bloc. On a peut-être joué un peu plus au ballon. Ben, au début, on perd des matchs. On a du mal un petit peu à se trouver, à comprendre comment on veut jouer. Puis le style commence à prendre, le projet de jeu. Et puis oui, on a fait une très belle année. Du coup, l'année dernière, en se sauvant quasiment au mois de janvier, hein, pas comptablement, mais on savait qu'on était sauvés. Ce qui fait que justement, on en a profité pour faire monter la B. En tout cas, on a essayé, ça s'est fait. Donc, la B est montée en première division et on est fiers d'être dans les meilleurs clubs charentais, d'avoir une première en R2 et d'une B en première division cette année.
Puis avec un début de championnat qui commence, on va dire, correctement, il y a eu cette défaite contre Charente-Limousine qui est aussi qualifiée en Coupe de France 2-1 à domicile. Mais vous avez rattrapé le coup contre Mini-Auxence 3-0 sur le second match. Donc vous êtes à 3 points au bout de 2 matchs. Comment tu, même s'il y a que 2 matchs de jouer, comment tu considères un peu ces premiers pas?
C'est frustrant. Le premier match, en fait, on l'a perdu parce qu'on perdait 2-0 au bout d'un quart d'heure. Je pense qu'on est rentré avec beaucoup trop de stress parce qu'on a mis l'objectif un peu plus haut cette année. On vise le podium. Et je pense qu'il y avait beaucoup de stress, c'est dommage. Il y avait 2-0 contre Charente-Limousine. Bon, ils méritent leur victoire, hein, mais on serait mieux rentré dans ce match-là. Bon, je pense qu'on aurait gagné. Mais bon, ça nous a servi de leçon pour la suite. Voilà. Des fois, ça fait du bien de perdre. On se dit les choses et puis on avance.
Oui,
et
puis il vaut mieux que ça arrive à la première journée plutôt qu'en pleine saison. Où c'est parfois compliqué de d'enchaîner derrière, quoi.
Exactement, non, c'est sûr. Bon, après, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est arrivé à domicile, mais bon, voilà, faut tourner la page et ça, voilà, ça nous a servi de leçon. C'est bien. On a bien réagi derrière.
Et puis derrière, donc vous battez Mignano-Beauvoir, donc c'est une équipe, Mignano-Auxence, pardon.
Mignano-Beauvoir,
carrément. Donc c'est une équipe de la Vienne. C'est plutôt une bonne performance puisque c'est une équipe qui est pareil, qui avait un peu le même parcours que vous, qui était en Régional 3 et qui est montée en R2 il y a pas très longtemps. Et c'est plutôt une équipe qui avait le vent en poupe.
Oui, pas évidente, hein, parce que depuis le début, on joue des équipes qui jouent vachement bas et qui jouent en contre. Nous, on aime bien conserver le ballon jouer vachement au sol. Justement, contre Charente-Limousine, on a pas joué assez au sol et c'est une équipe très très costaud, très physique. Contre Mignalou, c'était moins physique, mais ils nous attendaient et on a mis un peu plus de rythme. Il y avait un peu plus d'appel et on était patients parce qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. Défensivement, on est de mieux en mieux. Et puis bah après offensivement deuxième mi-temps, c'est surtout les remplaçants encore une fois là, ça fait trois fois qui rentrent et qui apportent quelque chose et c'est eux qui déclenchent les buts. Donc non c'est beaucoup mieux ouais. Plus les matchs avancent plus on est mieux.
Ouais, et puis c'est vrai que face à des blocs bas, bah finalement le plus important c'est de marquer le premier but, histoire après de les faire sortir.
Exactement. Ouais, ça c'est le plus dur hein, de marquer.
Et puis le pire des scénarios, c'est de se prendre un contre et de perdre 1-0.
C'est ça. Mais c'est ce qui s'est passé contre Charente-Limousine. Hein, ouais. Et puis un deuxième, un coup de pied arrêté. Il y avait 2-0 au bout d'un quart d'heure. Et bah, après, il reste encore plus bas, on va dire. Donc c'est très compliqué face à des équipes comme ça. Oui.
Et la différence aussi entre le championnat et la coupe, c'est que donc en championnat de R2, t'as le droit à 14 joueurs, alors qu'en coupe, le groupe monte à 16. J'imagine que c'est aussi important. D'impliquer plus de garçons qui finalement s'entraînent autant que tes cadres de R2 et puis c'est aussi important par rapport à la vie de groupe tout simplement.
Oui non mais c'est bien d'amener un, là on avait 16 joueurs, un deuxième gardien et le 15e qui est pas rentré, mais voilà, faut que ça, avec l'état d'esprit qu'ils ont, je suis pas du tout inquiet, ils sont super contents de faire partie de la Coupe de France, en plus bon bah on a gagné deux jeux de maillot, donc ils savent très bien qu'ils vont être récompensés, même l'abbé va être récompensé. Et oui, le fait qu'il y ait 16 joueurs, tout le monde peut y participer, c'est bien, plus de monde peut y participer.
Oui, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, l'AB étant monté en D1, donc il y a moins de delta entre les deux équipes.
Exactement, et ça se ressent surtout à l'entraînement. Les choix sont compliqués par moment, on se gratte la tête et tant mieux, c'est bien pour un coach. Mais oui, c'est très très bien, il y a moins de delta effectivement.
Vous avez des entraînements communs, je suppose?
Oui, le mardi.
D'accord. Oui. Donc, en fait, pour le schéma tactique, pour l'organisation du jeu, c'est une copie que tout le monde apprécie, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais, on se concerte énormément avec l'entraîneur de l'équipe B. En plus, on joue avec le même schéma tactique. Bon, même si moi, je peux avoir à peu près entre 18 et 21 joueurs pour jouer en première. Mais puis après, en équipe B, forcément, il y a des cadres. Qui restent en équipe B, mais qui par moment peuvent monter aussi en première et qui le mériteraient.
D'ailleurs, en parlant de l'AB, moi je suis beaucoup le championnat D1 parce que je m'occupe des étoiles Charente Libre et on voit que l'AB réalise quand même un bon début de saison. Il y a eu deux victoires pour une défaite, malheureusement une large défaite malheureusement à domicile contre Basso, mais vous avez super bien relevé la tête du côté de Leroy. Le groupe de l'AB, est-ce que c'est plutôt des jeunes qui aspirent à jouer en R2 ou est-ce que c'est plus des anciens qui ont connu justement ces ascensions de R3 à R2 et qui ont l'esprit club et qui viennent renforcer l'équipe réserve désormais?
Alors il y a un petit peu de tout, mais il y a beaucoup d'anciens qui ont connu cette montée-là, dont le coach Guillaume Bécas, qui est énormément apprécié au club. Et puis on a intégré des jeunes, oui, un jeune du club et puis d'autres jeunes qui sont arrivés, qui ont signé cette année ou l'année dernière. Et ce qui fait que ça fait une très belle équipe et qu'on le même style de jeu que la première, c'est-à-dire du jeu, en essayant de repartir derrière du gardien, en jouant au sol le plus possible. Et même pour une D1, c'est vraiment appréciable à les voir jouer.
Ça marque des buts en plus, parce qu'il me semble que vous avez marqué 10 buts en 3 matchs. Donc
Oui, tout à fait. Non,
offensivement, ça fait du bon boulot à la tête de l'équipe B.
Oui, non, mais c'est vrai qu'offensivement, c'est là où on a le plus de choix. Que ça soit en première ou en B, c'est oui, il y a du choix.
Football champagne à Mertin du coup.
Oui, bon, faut toujours marquer un but de plus que l'autre, mais oui.
D'ailleurs, c'est quoi la Patrick Gallo?
Il y en a pas, hein. Non.
Oh, il y en a forcément, il y en a un petit peu quand même.
Non. C'est plutôt axé sur le jeu, hein. Voilà, pas de prise de tête sur les entraînements ou quoi. On n'invente pas le football, hein, mais c'est beaucoup à base de jeu, énormément en tout cas.
Tu joues avec deux pistons sur les côtés ou tu joues une défense à quatre?
Une défense à quatre. Alors moi, je suis un adepte du 3-5-2, mais ça fait trois ans pardon que les matchs amicaux on les perd parce que je vise que ce 3-5-2. Et sur 12 matchs d'ailleurs en 3-5-2, j'en ai gagné qu'un.
Ouais. Donc c'est un système hyper compliqué à mettre en place.
Oui. Ouais, tout à fait.
Mais par contre, moi, je te rejoins parce que mon maître tacticien, c'est Gasperini de l'Atalanta et je trouve que ce qu'il fait, c'est juste magnifique à voir, notamment à l'époque où il y avait les deux pistons, donc Gossens à gauche et puis Adbourg à droite. Ah oui. Et quand tu vois que le piston droit fait la passe D pour le piston gauche et inversement, c'est magnifique à voir.
Ah oui, là c'est vachement offensif, oui, effectivement. Donc non, on joue avec 4 derrière maintenant. Voilà, 4-2-3-1.
Ce qui reste d'ailleurs une valeur sûre du football et un système employé par beaucoup d'équipes.
Oui, tout à fait. Même si on voit de plus en plus des équipes pro jouer en 3-4-3 là actuellement là depuis une petite année, mais
oui. Bon. Tiens, d'ailleurs, je te partage une réflexion qu'avait eu David Jiguel lorsque je l'avais interrogé à la fin du match de la CFC contre Vierzon. Il m'avait dit que pour contrer à 3-5-2, il n'y avait rien de mieux que de se mettre soi-même en 3-5-2. Finalement, il avait changé presque son dispositif rien que pour ce match-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas?
Mais c'est vrai que ouais, je suis d'accord avec ça parce que j'ai joué beaucoup d'équipes l'année dernière qui jouaient en 3-5-2, enfin beaucoup. Bah, Cause par exemple, pour pas les citer. Les deux défaites, c'est deux fois où ils ont joué en 3-5-2 et j'ai préparé cette année ma causerie sur le 3-5-2 de cause et en fait ils étaient en 4-4-2 à plat. Alors je sais pas si on a gagné grâce au 4-4-2 à plat, mais à chaque fois on est en difficulté sur des 3-5-2 effectivement. Et il a certainement raison, oui. Il a certainement raison parce que j'ai essayé autre chose et ça a jamais pris. Mais j'ai jamais essayé le 3-5-2 contre le 3-5-2.
Ah ben voilà, peut-être qu'alors au prochain 3-5-2 qui se présentera,
j'y penserai.
Et par rapport à votre poule de Régional 2, on voit quand même que c'est une poule hyper relevée. Tu faisais référence à cause. Bah, qui était longtemps à la lutte avec Rochefort l'an dernier, finalement qui s'est fait un peu sucrer la montée par Rochefort. Il y a aussi des bonnes équipes comme Périgny, comme l'Étoile Maritime qui sont hyper ambitieuses. Et puis t'as aussi des réserves comme Cognac et Choré, dont les équipes premières sont en R1. Donc ça fait quand même une poule qui est hyper hyper dense.
Bah oui, en plus bon Périgny vise la montée, ils l'ont annoncé. Charente-Limousine non, mais les premiers rôles. C'est l'Étoile Maritime qui a annoncé aussi la montée. Cause, s'ils peuvent la jouer, ils vont la jouer. Donc déjà ça fait déjà quatre équipes qui vise le haut du tableau, et puis après les équipes B, oui, comme tu l'as dit, c'est on sait jamais quelle équipe ils ont, mais si la première est au complet, effectivement, ça fait des belles équipes B généralement. Donc il reste plus beaucoup de place derrière au fond du wagon. Je connais pas encore les autres équipes, hein, celle du côté de Poitiers. On a juste joué Mignalou, mais ça a l'air d'être une poule. Oui, on va pas falloir laisser des points de côté, quoi. C'est très important de prendre des points.
Oui, parce qu'en plus c'est une saison particulière. Alors moi, j'avoue que j'ai un peu en stress par rapport aux 5 descentes de N2 en N3, mais même en R1 il y a 5 descentes, en R2 tu faisais référence à 4 descentes. C'est vraiment une saison particulière parce que c'est la première où finalement il y a ces répercussions par rapport au changement de calendrier un peu des systèmes de la fédération. C'est une saison en tout cas qu'il faut absolument pas rater, celle-là.
Ah oui, elle est hyper importante, et puis même pour notre équipe B, il faut être vigilant. Il y a 4 voire 5 descentes, il me semble, en première div.
Bah, ça va dépendre de la R3, je pense.
Oui, c'est ça, exactement. S'il y a beaucoup de Charentais en R3 qui descendent, il y aura plus de descentes en première div, mais il y a quand même 4 descentes en première div, pour sûr. Donc, que ça soit la première ou la B, faut prendre des points très vite.
Le meilleur moyen finalement de se maintenir, c'est de viser la première partie de tableau, parce que même en terminant milieu de tableau, on n'est pas à l'abri sur l'avant ou le dernier match.
Oui, c'est sûr. Vaut mieux le dire d'entrée. Niveau objectif, on vise ça. Voilà, ça c'est typiquement français. Hein. On aime bien. Si on dit il faut 10 de moyenne, bon, on va avoir 8. Et tandis que si on dit il faut avoir 18 de moyenne, bon, on va viser un 14. Donc nous, on a mis. On a visé haut, voilà.
Oui. On est loin du théorème Giroud où l'important c'était d'attraper les 42 points qui étaient synonymes de maintien.
C'est ça, bon, on le pense intérieurement, mais
oui, bien sûr.
Mais voilà, oui, effectivement.
Sachant qu'en R2 il fallait à peu près, je pense, 8 victoires pour se maintenir avant. Il en faudra peut-être un peu plus.
Ouais.
Descente.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Je veux aussi me projeter sur le derby contre Cognac. Forcément, un derby, surtout en plus un Merpin Cognac, c'est un match particulier parce que beaucoup de Merpinois ont joué à Cognac, peut-être. Alors, je sais pas si le mot tous est un peu abusé, mais en tout cas, il y a beaucoup de tes joueurs et toi-même, vous avez été tous à l'UAC, donc ça reste forcément un match particulier pour vous.
Oui, ça reste forcément un match particulier. Effectivement, ça reste un derby. Il y a plus de Cognacés à Merpin que de Cognacés à Cognac, donc oui, ça reste un match particulier, mais faut sortir ce contexte-là parce que l'année dernière, on a failli le perdre. On aurait dû le gagner largement, mais on a failli le perdre. On égalise vraiment à la fin sur un corner. Donc, je parle plus de derby, on va dire. On essaye de, même si les joueurs, puis même moi intérieurement, on y pense, mais on essaye d'enlever ça de sa tête et faut se dire que c'est un match comme un autre.
Oui.
Mais on a envie de le gagner, oui, ça c'est sûr et certain.
D'autant plus qu'il est important parce qu'il fait suite à la Coupe de France. Donc il va y avoir des matchs qui vont jouer ce week-end en R2. Donc potentiellement des équipes qui vont vous doubler. Donc ce sera important de vraiment remettre la marche vers l'avant sur le championnat.
Quoi qu'il arrive, faut absolument gagner à Cognac pour prendre ces 3 points. Et puis on a perdu un match chez nous contre Charente-Limousine. Donc faut rattraper ces points. On n'a pas le choix. Faut aller les chercher.
23, ils se déplacent à Mérignac, au SAM, dimanche.
D'accord. Donc tout va dépendre des descentes qu'ils vont faire pour la B. Voilà, parce que l'équipe B est pas du tout la même, hein, en fonction de ça.
Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, c'est à votre avantage finalement que la première de Cognac puisse jouer un dimanche après-midi, parce que oui, ce qu'ils vont emmener avec eux sera forcément pas contre vous, alors qu'un samedi soir, ils pourraient refaire descendre potentiellement les joueurs qui sont rentrés et qui ont fait moins de 45 minutes s'ils sont.
Exactement. Qui ont moins de 23 ans, tout à fait.
D'ailleurs, alors Didier, ça va être une première dans l'émission, mais la semaine prochaine, on reçoit Alvin Henry, qui est l'entraîneur de Cognac. Est-ce que tu aurais potentiellement une question à lui poser, qu'on lui posera la semaine prochaine?
Non, pas forcément de questions à lui poser. J'espère qu'il... Voilà, je sais que c'est sa première année en tant qu'entraîneur des seniors. J'espère qu'il s'éclate. Et puis, surtout, je lui souhaite que ses objectifs y arrivent, tout simplement. Je souhaite le meilleur à Cognac, hein, tout simplement. Mais une question... Non, pourquoi pas? Est-ce que le monde des seniors, entraîner les seniors, ça, il aime bien? Et qu'est-ce qu'il préfère? Est-ce qu'il préfère entraîner les jeunes ou les seniors? Ouais, ça peut être une bonne question, ça.
Je la note et on lui posera la semaine prochaine. Ça nous fera une question moins à poser comme ça.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 RFM, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Romain Rigano qui répond aux questions de Christian.
Par rapport à votre équipe réserve aussi, elle fait un bon parcours. L'AD1 en plus est hyper relevé. Il y a beaucoup d'équipes qui ont connu la Régionale 3. On peut penser à des formations comme Moutier, comme Basso, qui ont été même la Baie de Leroy a fait du R3 il y a quelques saisons. Ouais. Est-ce que par rapport au premier retour que tu as eu avec Guillaume, il y a vraiment une grosse marge d'écart entre l'AD2 et l'AD1?
C'est que ça joue beaucoup plus au ballon. Donc ça nous convient. Et on se dit que si ça se trouve, on prendra plus de points en D1 qu'on en a pris en D2. Alors c'est une boutade, hein, c'est pas possible. Mais en tout cas, on risque plus de s'en sortir.
En tout cas, si c'est le cas, l'an prochain, ça fera du R2 R3.
Non, mais on risque plus de s'en sortir comme ça que si on était en D2.
Oui, parce que finalement, limite, c'est presque plus simple de jouer une équipe qui joue au ballon qu'une équipe qui reste derrière et qui attend le contre au final.
Oui, nous, en tout cas, dans notre style de jeu, oui, c'est tout à fait. On préfère avoir une équipe qui joue au ballon. C'est plus facile pour nous.
Et puis en plus, vous avez rapidement pris des points. Donc, quand on est un promu, surtout avec le nombre de descentes qu'il risque d'y avoir, c'est forcément important de démarrer un championnat de manière positive.
Oui, c'était hyper important. Bon, il a perdu le deuxième match contre Basso, mais bon, oui, tout le monde est passé à travers. Il y a eu des choses qui ont été dites après, pas aussitôt après le match, mais dans la semaine. Et ils ont été gagnés ce match 6-2 à Leroy B. Donc, pareil, hein, nous, on est passé à travers contre Charente-Limousine. Faut se dire les choses et puis on remet bouchée double et puis on y va.
Et puis, de toute façon, vous êtes amateur, donc vous avez forcément le droit de passer à travers au moins un week-end.
Oui, c'est sûr, exactement.
Ce qu'il faut finalement, c'est qu'il y ait moins de week-ends où ça passe au travers.
Ouais, c'est mieux, tout à fait.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi, 19h-20h30. Nous retrouvons Romain Rigano qui répond aux questions de Christian. C'est à toi.
Je vais finir d'évoquer rapidement ce sixième tour. Donc en Haute-Vienne, encore un déplacement et puis un département que vous n'aviez pas fait jusqu'à présent. Est-ce que le club organise quelque chose, un déplacement de supporters ou quelque chose de ce style-là?
Alors aussitôt le tirage, on va dire quelques joueurs ont voulu. C'est vrai qu'aussitôt on a envie, hein, tout à fait.
Ouais, on est un peu dans l'euphorie.
Ouais, on est un peu dans l'euphorie. Bon.
C'est situé sur quelle commune?
C'est après Limoges. Ça s'appelle Magnac-Bourg.
Magnac-Bourg, ouais, tout à fait, ouais.
Ouais. Oui, donc le dirigeant de l'équipe première, Bruno, a appelé aussitôt, dès le lendemain, des bus, quoi. Mais bon, c'était impossible d'avoir des bus pour le dimanche. Mais bon, on a essayé. Mais moi, j'étais plutôt à dire attention, les gars, c'est un match de coup. Faut pas changer nos habitudes. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Hein, on a fait la même chose à des tours précédents. On était assez loin après Bergerac et tout. Et on fait exactement la même chose. On arrive à 8h30, on boit le café, on part à 9h. On mange à 11h30 dans un resto entre nous, petite partie de belote, on arrive tranquillement là-bas, on découvre le terrain, et puis à 14h, on met le bœuf de chauffe, et puis à 15h, c'est parti. On ne change pas nos habitudes.
Et tu parlais de ne pas modifier vos habitudes avant un match de Coupe de France. C'est quoi du coup votre rythme habituel en semaine? C'est deux entraînements par semaine? C'est quand
Nous, c'est mardi, vendredi, les entraînements.
Ok.
Donc là, le terrain est très 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 compliqué sur le terrain d'entraînement. On est en train de voir avec le grand Cognac et justement Alvin et d'autres personnes pour avoir le synthétique le jeudi. Mais des fois, on monte à trois entraînements. Qui est le mercredi en plus, mais les joueurs ont tellement mal au dos par moment, ou aux chevilles ou autre, parce que le terrain est compliqué, que bah, on n'en fait que deux. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait trois. Mais sinon, les joueurs sont demandeurs et il y a du monde. C'est dommage.
D'ailleurs, on avait parlé de Merpin cet été. Plusieurs articles de presse dans la Charente Libre et dans le Sud-Ouest qui faisaient mention que le club, finalement, c'était super bien développé, mais que les infrastructures suivaient pas, notamment le président qui avait donné pas mal d'interviews. Est-ce que par rapport à ça, il y a eu des avancées qui ont été faites, hein? Quel retour vous avez eu par rapport à ces articles qui sont parus dans la presse charentaise?
Bah déjà, c'est dommage d'en arriver là, quoi. Mais oui, quelques petits retours, mais pas assez. Ça va passer vite. C'est dommage parce que je suis quasiment sûr que dans pas longtemps le terrain va être fermé. Mais bon, le plus compliqué, c'est pour les enfants. Nous encore seniors, bon voilà. Mais pour les enfants, arriver, être dans la boue quand il va pleuvoir, même pas avoir un toilette pour aller aux toilettes et même pas pouvoir prendre de douche parce que les bungalows sont sales, parce qu'on est serré dedans et tout. C'est compliqué. Puis bon, les parents sont pas très contents. L'éclairage, c'est très très limite. Voilà. Et puis sur le terrain d'honneur, heureusement, il y a un bon terrain, mais pour s'échauffer, parce que il y a toujours une équipe qui joue avant. Donc pour s'échauffer, c'est très très compliqué. Des fois, on reçoit des équipes qui ont fait 2 heures de route. Ils s'échauffent derrière une rambarde. Ça le fait pas de trop en R2 quand même. Et puis il y a que 3 vestiaires, et donc il y a une équipe. Alors nous, la première et la B, on est ensemble, mais. Ce qui fait que moi je me prépare la baie dans le clubhouse. C'est très compliqué, les vestiaires d'arbitre, j'en parle même pas.
Oui, parce que quand il y a match à 13h et match à 15h, au final, ça fait 4 équipes, donc s'il y a plus de 2 paires d'arbitres, donc s'il y a que 3 vestiaires, c'est forcément compliqué de s'organiser.
Ah oui, c'est hyper compliqué de s'organiser. Bon, c'est une habitude, hein, mais.
Oui.
Mais bon, alors quand il pleut et tout, c'est très très compliqué. Mais c'est dommage, ça fait des années que c'est comme ça, et le club évolue. Au niveau de la compétition, c'est de plus en plus haut, ça évolue aussi surtout, et ça c'est très très bien au niveau des licenciés. Maintenant, on peut parler d'école de foot parce qu'il y a toutes les catégories de partout, U6, U9, U13, U15, U17, U19. C'est très bien, c'est super bien, mais faut que les infrastructures assurent.
Bon, alors t'es pas le président, donc je vais pas forcément te demander combien de licenciés au chiffre près, mais enfin.
Les 210 licenciés.
Ah bah voilà. Oui. Toutes les catégories présentes, vous êtes vraiment Merpin ou il y a une entente avec d'autres clubs chez les jeunes?
Non, on est vraiment Merpin et il me semble que c'est la première année que on est Merpin et ouais. C'est sûr et certain qu'on est la première année. C'est la première année où on a toutes les catégories. Voilà.
Bah c'est bien ça parce que il y a pas forcément beaucoup de clubs en Charente qui peuvent se targuer d'avoir toutes les catégories sans entente.
Ah c'est même très très bien, c'est super pour le club, pour la vie du club. Mais ça sera encore mieux quand les infrastructures évolueront aussi en même temps.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'imagine aussi que c'est un travail de longue haleine. Combien d'années à peu près il faut pour démarrer une école de football et puis l'installer vraiment comme elle est installée cette saison?
Alors, je sais que c'est François Sauton, quand il est arrivé en tant que président, avec Valentin Barret, qui est arrivé de Cognac, qui était responsable de l'école de foot. Il me semble qu'ils ont mis 5 ou 6 ans. Hein. Et maintenant, donc Valentin arrivé, c'est Joe, l'entraîneur du 19, et qui est responsable de l'école de foot, qui a pris la suite avec Didier. C'est une très bonne suite. Et faut que ça dure. Et c'est ce qui est le plus compliqué, hein, le lancer, c'est dur, mais que ça continue, c'est encore plus compliqué. Donc, je leur souhaite beaucoup de courage, mais ça, en tout cas, ça se passe très très bien pour l'instant.
Et puis le fait d'avoir des U19 au complet, ça permet aussi de voir à quel niveau ou à quel moment on peut faire monter des juniors en seniors.
Effectivement. L'année dernière, on a utilisé 8 U19 pour info. Moi, j'en ai pris 4 en R2. Là, cette année, on en a mis un directement chez nous qui va jouer en Coupe de France ce week-end. Il ne le sait pas encore. Et les U19, sinon, sont encore en U19 dans leur catégorie, mais on les suit de très très près et on les intègre à l'entraînement et on va en intégrer encore plus au mois de décembre.
Oui, puis potentiellement la passerelle U19 équipe B, elle est faisable. Et puis c'est vrai que il y a un monde d'écart finalement entre le football adulte et puis le football chez les jeunes.
Oui, ouais, il y a un très gros palier. C'est très dur, même si c'est U19, un très bon U19 pour jouer en première division. C'est pas si simple que ça. Il y a un gros palier. Quand on se retrouve face à une personne de 35 ans, un petit peu le métier, c'est pas si simple. Même si on vient de U19 R1 ou qu'on a fait toutes les catégories en R1, c'est pas si simple.
C'est physiquement, selon toi, que de passer d'une catégorie U19 à une catégorie senior, c'est physiquement pour toi que c'est vraiment le plus compliqué?
Moi, je dirais que c'est plutôt sur le plan tactique.
Ouais, il y a un peu de tout, mais ouais, physiquement, je dirais que c'est la première chose. Et puis après, c'est surtout d'être régulier, quoi. Il va faire un bon match. Sur le premier match, mais après petit à petit il va être usé, ça va pas être simple, quoi. Il y a un peu de tout, c'est aussi mental.
Oui, puis alors, ça dépend du joueur aussi.
Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, maintenant dans le monde senior, il y a un petit peu de chambrage, il y a un petit peu de tout. Donc on n'est pas dans la tête d'un jeune, mais il peut vite retomber au fond. Donc c'est difficile de s'intégrer dans le monde senior. Ouais.
Et par rapport à vos équipes de jeunes, est-ce qu'il y en a certaines qui ont pu accéder au niveau ligue ou pour l'instant il y a toutes les équipes de jeunes qui sont au niveau district?
Sauf les U16. Les U16 sont en R2.
D'accord.
Voilà. Mais c'est compliqué parce que il y a encore du travail, mais bon, faut pas griller les étapes. Hein. On a des catégories partout et puis petit à petit justement, c'est de continuer comme ça et puis peut-être un jour passer en ligue certaines catégories.
Déjà, c'est bien d'avoir toutes les catégories, d'avoir les enfants qui puissent les alimenter, puis d'avoir les éducateurs qui sont là aussi pour leur faire franchir et les faire progresser.
Oui, oui. Surtout que c'est hyper compliqué de trouver des éducateurs aujourd'hui, hein, que ça soit dans tous les clubs. Hein, tous les clubs en parlent. Mais pour les faire progresser, c'est important d'avoir des bons éducateurs qui passent leur diplôme et puis de les suivre.
Oui.
En parlant des catégories jeunes, est-ce que vous avez des filles qui sont demandeuses ou des filles licenciées au club, Romain?
Alors, on a quelques filles chez les jeunes, mais après, donc, elles doivent partir en U16, généralement du côté de Soyaux. Mm-hmm. Mais il y en a, je crois qu'il y en a deux ou trois. Hein. C'est pas énorme, malheureusement. Mais sinon, bien sûr, si les filles veulent venir, il n'y a aucun souci.
Ouais, parce qu'il me semble que les filles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à un certain âge.
C'est jusqu'en U16.
Moi, j'avais connu notamment Anna Clairac, qui joue en D1 à Soyaux, qui a joué chez les jeunes à la CFC.
Oui, tout à fait.
Moi, je l'ai connu.
Moi, j'ai une jeune qui s'appelle Camille Collin qui
ah bah oui.
Voilà, j'ai eu à Cognac de U13 à U16 justement.
Oui, excellente joueuse.
Oui.
Qui avait marqué d'ailleurs contre Rodez lorsque la J avait joué à domicile. C'est bien ça quand les joueuses ou joueurs que tu as eus sous ta coupe finalement n'oublient pas finalement leurs racines malgré le fait que maintenant elles jouent en D1.
Ouais, c'est super. C'est ce qui fait que à son moment forte aussi, c'est qu'elle sait d'où elle vient et où il vient. Donc c'est bien. Il change pas de mentalité, c'est hyper important.
Dans le football, on parle d'arroseur arrosé quand les gardiens tentent les pénaltys. Alors je vais te poser la question finalement que tu avais prédestinée à Alvin. Comme toi, tu as aussi coaché un peu chez les jeunes. Qu'est-ce que tu préfères finalement, les jeunes, les seniors?
Moi chez les seniors là, j'ai vraiment un bon groupe de copains qui écoutent, qui travaillent. Chez les jeunes, j'ai aussi j'ai toujours eu la même génération, mais c'était vraiment sympa. Donc Joker, je vais dire les deux.
Oui, il y a des avantages et des trucs un peu moins bien dans les deux situations, j'imagine.
Ouais, même si la meilleure catégorie de jeunes, je pense que c'est les U13. Mais après les seniors, je dirais U13 et seniors égalité, voilà.
Est-ce que dans des parcours Gambardella, t'as retrouvé un peu le même frisson qu'en Coupe de France ou c'est complètement différent malgré le fait que ce soit quand même une coupe?
J'ai retrouvé exactement le même frisson, hein, quand on s'est retrouvé contre Châteauroux en 128e de finale.
Ah oui.
Je vais avoir le même palpitant ce week-end, voilà, avec un petit peu de stress et tout, mais c'est ce qui fait le charme. C'est super bien. Tant mieux.
Oui, parce qu'on dit généralement que la Coupe de France, c'est un truc pour les joueurs, c'est eux qui se construisent leur parcours, c'est eux qui obtiennent les maillots, c'est eux qui finalement se font leur épopée. Mais j'ai l'impression à t'entendre que tu vis ce parcours autant qu'eux au final.
Ah oui, même plus qu'eux, hein. Mais, même si c'est eux qui jouent, hein, mais on est les premiers déçus quand on perd, mais quand on gagne, on a que ce soit dans les deux. Qu'on perde ou qu'on gagne, on y participe forcément, hein, dans nos choix, dans la façon de jouer, dans ce qu'on veut véhiculer. on y participe parce qu'on a travaillé dans la semaine aussi. Donc, est-ce qu'on fait bien, on ne sait pas. Tout dépend si on gagne ou pas. Voilà.
Vous avez une dotation de maillot à chaque nouveau tour ou pas? Non.
Non. On en a eu un au quatrième tour. Mm-hmm. Et ensuite, en fait, ils en donnent un deuxième. J'ai appris ça parce que comme on se déplace généralement, il y en a un pour le domicile et un pour l'extérieur.
Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs couleurs pour les domiciles et plusieurs couleurs pour les extérieurs.
Ouais, c'est ça, avec un sponsor différent sur le domicile extérieur.
Donc au final, le fait d'avoir reçu cause et de vous être déplacé à Faux, bien ça vous a fait deux maillots, puisque vous étiez une fois recevant et une fois visiteur.
Exactement.
Et avec un peu de chance, vous auriez pu être visiteur dans une autre couleur.
Aussi, oui.
Ça reste un maillot de la Coupe de France avec le sponsor de la FEDE.
C'est ça, exactement, avec beaucoup de souvenirs.
Oui, tout à fait. Et puis c'est un maillot que les joueurs ressortiront à l'entraînement ou dans 10-15 ans quand ils auront arrêté le foot. Ouais,
exactement.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 RFM, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Romain Rigalot qui répond aux questions de Christian.
D'ailleurs, c'est vrai que Merpin, donc c'est juste à côté de Cognac. Donc à Cognac, il y a forcément l'UA Cognac qui a longtemps été en CFA2, qui était redescendu en R1 pour remonter en N3 et qui malheureusement est redescendu en R1. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients d'être finalement voisin d'une grande ville comme Cognac et finalement voisin on peut considérer comme Cognac comme le deuxième plus gros club en Charente. Comment on vit cette situation?
Moi, pour connaître très très bien Cognac, hein, parce que j'y suis depuis l'âge de 9 ans là-bas. Ce qui est compliqué à Cognac, c'est que ils intègrent pas assez de jeunes, ce qui fait que les jeunes ils se sentent ils recrutent beaucoup de l'extérieur, donc les jeunes ils ont pas beaucoup de chance de jouer en équipe première. En B un peu plus, mais ils sentent que c'est compliqué d'y aller, donc ils sont certainement déçus. Moi je suis un peu passé par là, donc ils sont un peu déçus et on commence à regarder à l'extérieur, juste à côté des fois. Et puis quand il y a un club par exemple comme Merpin qui est au même niveau que l'équipe B,
oui on se dit que finalement que c'est plus intéressant de jouer en première en R2 qu'en réserve.
C'est ça, parce que il y a la Coupe de France par exemple.
Oui.
Il y a la Coupe Nouvelle-Aquitaine aussi. Il y a beaucoup plus de matchs et puis c'est pas la même ambiance. Ça va être plus la compète certainement à Cognac, un peu moins à Merpin. C'est un peu plus la fête. Ça dépend ce qu'on recherche. Les infrastructures aussi sont pas les mêmes. Faut faire le pas pour passer de synthétique à un terrain très très compliqué aussi. C'est pas évident, mais. C'est vrai que pour recruter c'est plus facile, hein, mais généralement, ils viennent tout seuls, hein. Il n'y a pas vraiment besoin d'appeler. Hein. Voilà, c'est plus de la déception. Ils partent avec de la déception.
Ouais, puis c'est vrai qu'aussi votre club est quand même sur une bonne vague là depuis plusieurs saisons. Je rappelle, vous étiez descendu en D1 et vous êtes remonté avec une finale Coupe de Charente. Alors je me rappelle plus si c'était gagné ou perdu. Je crois que c'est peut-être perdu contre Barbezieux.
Je sais pas.
Infaillible sur les matchs, sur les finales, j'en ai vu plusieurs. Mais en tout cas, c'est vrai que de passer de la D1 à la R2 avec en plus une équipe de foot qui s'est bien développée, c'est aussi attirant pour un joueur de venir dans un club qui marche bien, tout simplement.
Ah oui, non, c'est oui. Quand on est en pente ascendante, oui, c'est toujours mieux. Et puis surtout qu'il y a, ils sont montés de D1, R3, R2. Avec Philippe Schlosser et François aussi.
Oui.
Et puis vous l'avez dit, c'est une bande de copains, hein. Ils ont tous joué ensemble à Cognac avant. D'autres viennent de l'extérieur que moi j'ai connu aussi à l'extérieur qui signent, ça apporte forcément du plus. L'équipe B qui monte aussi. Le club house qui vit très très bien. Après les entraînements, ça vit très bien aussi. C'est vraiment une bande de copains tous en dehors du foot. Et tout ça, ça pousse à des résultats, voilà. On croise les doigts encore, faut que ça continue.
Est-ce que vous avez du public, Romain?
Oui. Alors pour la Coupe de France, on était, je pense, 400 spectateurs.
Super.
C'est même sûr, hein, vu la recette. Mais sinon, même le week-end, il y a du public, ouais. Oui, il y a pas mal de public. Il y a tout âge, hein, donc c'est vraiment bien.
Super. C'est un public familial ou il y a des anciens qui viennent voir des matchs?
Alors c'est plutôt familial, mais il y a aussi des anciens. Ouais.
La question, c'est forcément compliqué de se projeter dans le football. C'est un sport qui est tellement pas aléatoire parce qu'il y a beaucoup de travail et puis le travail est forcément récompensé. Mais la marge entre un 0-1 et un 1-0 est tellement faible que c'est compliqué de se projeter. Mais sportivement, d'ici 2-3 saisons, même si peut-être que tu ne seras plus le coach, hein, ça on peut pas savoir à l'avance, mais quelles ambitions Merpin peut avoir sportivement?
Là, cette année, on vise les 3 premières places, mais ça va être compliqué de viser plus parce que voilà, il y a vraiment des équipes qui ont annoncé qui jouaient la première place, mais c'est une génération qui arrive à 28 ans là maintenant, donc c'est en pleine force de l'âge pour le football. Entre 28 et 32, généralement, c'est les meilleures années. Bah, écoutez, je leur souhaite de monter en R1. Hein, c'est le meilleur niveau régional. Mais bon, il faudrait que tout aille ensemble, hein, les infrastructures. Faudrait que la baie se maintienne. Faut faire aussi plusieurs années en R2 où bah, ça se passe très très bien, avec beaucoup de victoires. Voilà, déjà, et puis il faut que l'école de foot ça perdure, que ça monte aussi un petit peu au niveau régional. Faut que tout aille ensemble et forcément à un moment donné cette équipe a montré, oui.
Oui, parce qu'on parlait du palier entre la D2 et la D1, mais bon, le palier entre la R2 et la R1, surtout maintenant, la R1, ouais. Nouvelle-Aquitaine, nouvelle génération avec 3 poules, il est aussi très compliqué.
Ah oui, c'est très très dur. Mais là, il y a un gros écart, un très très gros écart, effectivement. On voit généralement hein, l'équipe qui monte de R2 en R1, sitôt après. Je pense qu'on regardera à la fin la saison. Il y en a pas mal qui seront montés, qui vont redescendre.
Ouais, ben notamment Rochefort là, qui galère sur le début de saison.
Oui, il galère apparemment. Hein. Bon, et pourtant c'était une très belle équipe en R2. Et là, il galère et ça va être compliqué. J'ai l'impression pour eux malheureusement.
D'ailleurs, j'imagine que tu vas parfois avoir des matchs de Cognac où tu en as vu dans le passé, peut-être en N3. Qu'est-ce qui fait la différence, grosso modo, entre ces matchs-là et les matchs de R2, R3 que l'on peut coacher le dimanche après-midi?
Oh bah là, le niveau est beaucoup plus élevé. Hein. Il y a pas photo. Hein. Sur un match de coupe, c'est possible de gagner sur un match, mais bon, la saison est tellement longue que le niveau est beaucoup trop haut, hein, entre N3 et R2 ou R1. Donc,
oui, c'est compliqué de rivaliser sur 26 voire 30 matchs.
Ah oui, très très compliqué. Oui. Alors, faut vraiment avoir une génération qui a rien à faire en R2 mais non, c'est impossible, c'est impossible.
Bah, déjà d'un point de vue charentais, au final, quand on regarde les équipes, il y a la CFC donc en N2 et puis derrière en R1, il y a finalement que le Cognac et la réserve de la CFC. Donc on peut considérer que vous êtes avec plusieurs clubs comme Charente-Limousine, Jarnac, Leroy, que vous êtes dans le top 5, top 6 des clubs charentais.
Oui, c'est la réflexion qu'on s'est faite quand la B est montée l'année dernière. Donc ça, on est assez fiers de ça et faut le confirmer cette année. Hein, mais on confirme en coupe déjà. Mais puis notre début de saison de la B et de la première, donc
oui, en plus c'est une réflexion intéressante que tu fais parce que des équipes réserves, on a celle de la CFC de Cognac en Ligue et puis après en D1, mis à part vous, l'Alliance 3B et le Roi, c'est les seules réserves qui sont en D1.
Exactement. Donc
on peut vous classer dans le top 5 des clubs les plus performants en Charente.
Oui.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 Angoulême, Barbezieux et Cognac. 90.7 RFM, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Romain Rigano qui répond aux questions de Christian qui tient la baraque à lui tout seul ce soir.
Ouais, on va dire que je suis le stopper qui a arrêté deux, trois tentatives de bûche. Non, mais j'aimerais échanger avec Romain par rapport au coaching. C'est vrai que on a des staffs, notamment en N1, N2... où l'entraîneur, il a un entraîneur adjoint, un entraîneur des gardiens, un préparateur physique, des kinés. Quand on est R2, finalement, on n'a pas forcément tout ça. Alors peut-être que tu as un adjoint, mais comment tu gères toutes ces casquettes un peu parce que au final, on avait reçu Olivier Modeste il y a 2 saisons qui nous disait que coacher c'était pratiquement 80% de psychologique, de mental et seulement presque 20% de sportif.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors moi, j'ai un adjoint, Michael Rodriguez, qui est avec moi, où ça se passe super bien. On se connaît depuis longue date, depuis Cognac, et aussi qui est un ancien joueur qui a joué très très haut avec Giroud notamment.
Ah oui.
À Auxerre, oui. Et du coup, après c'est facile avec les joueurs qu'on a, hein, qui sont vraiment très 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 sympas déjà, qui sont à l'écoute, où notre plan de jeu passe très bien. Et oui, je rejoins un peu Olivier, hein. C'est vraiment du feeling avec les joueurs, hein. Déjà, faut gagner leur confiance, puis vice versa. Et puis, le projet de jeu qu'on veut mettre en place, il est hyper important. Bon, moi, j'ai des joueurs qui veulent jouer au ballon, donc c'est plus facile pour moi. Et puis, je me, je me, je me renseigne avec des livres, des beaucoup de choses, internet, à travers les diplômes aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à comment on veut jouer. Donc mais c'est très facile avec des joueurs comme ça effectivement.
Ouais, parce que c'est vrai qu'à Verpin, donc il y a la bonne dynamique sportive, mais c'est vrai que le groupe change pas énormément en plus d'année en année. Comme tu le disais, c'était une bande de copains. Et toi, donc tu arrives l'année du Covid, donc c'est la saison 2019-2020, ouais. Donc ça fait 3 ans que tu es à Verpin. Est-ce que justement t'as ressenti quelques différences entre ton arrivée il y a 3 ans et donc nouveau coach et maintenant où tu es bien établi au sein du club? Par rapport au regard finalement que les joueurs ont de toi.
Ouais. Bon, après, ils me connaissaient, la plupart me connaissaient, mais bon, j'avais entraîné que des jeunes. Voilà, de U10 à U19, c'était ma première année senior. J'arrivais avec beaucoup de joueurs, que des jeunes qui m'avaient suivi, de Cognac notamment, et du coup, c'était compliqué. Bon, déjà, c'était le Covid, hein, voilà, mais on avait fait 4 matchs de championnat, 4 défaites, les matchs amicaux pas gagnés, 1, Coupe de France perdue contre une deuxième div. Heureusement qu'il y a eu le Covid, voilà. Oui. Une nouvelle saison a commencé et là, ça a pris. Là, ça a pris et ça, voilà. Comme quoi, faut du temps, hein, on peut être, faut du temps. Et il en a fallu et merci Covid.
Oui, puis ce qui est bizarre dans le football, c'est que ça peut super bien marcher un an, tu changes un joueur ou deux et la saison d'après, tu galères finalement à te maintenir alors que la saison d'avant, tu veux la monter.
Ouais, c'est ça, exactement. Chaque saison est différente. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut bien la commencer. Ça, c'est sûr.
Ouais, tout à fait. Parce que les points pris ne sont plus à prendre. Ça, c'est un adage sur le football.
Puis mentalement, il y a moins de pression. Voilà. De toute façon, c'est les victoires hein, qui font sourire et qui font qui fait que ça avance.
Et puis l'exemple vient d'en haut. Regarde ce que fait Lorient cette année. Donc c'est inimaginable. Alors que l'année dernière, ils ont galéré comme pas possible pour pouvoir se maintenir. Donc c'est vrai que c'est des exemples qu'on peut citer à ces joueurs de manière à ce qu'ils prennent un petit peu exemple sur ce qui se passe en haut.
Ah c'est ouais, Lorient c'est étonnant, c'est quasiment la même équipe hein, voire la même équipe. C'est ouais un petit club comme ça. Bravo à eux hein, ça bosse hein, quand ça bosse ça sourit hein. Tant mieux.
Ouais mais c'est pas étonnant parce que il me semble que le coach de Lorient c'est Régis Lebris si je me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Et il coachait la baie de Lorient quelques saisons et une baie qui faisait vraiment des super résultats en N2.
Ah oui. Ouais donc ouais, il a trouvé le bon truc hein, ça c'est certainement un bon coach.
Ouais, carrément ouais. Parce que c'est vrai que pour moi, un bon coach, au final, c'est un coach qui tire le maximum de son effectif. Et moi, après, je suis surtout un suiveur de la CFC et on le voit l'an passé. Hein. Je pense que Angoulême est un peu en sur-régime. Et le coach, il arrivait finalement à tirer toujours 100-110% de son effectif. Et je pense que c'est ça l'objectif quand on est coach, c'est vraiment de tirer le maximum de ses joueurs. Il faut aussi les mettre dans les meilleures conditions.
Ouais, c'est dur à trouver.
Ouais.
C'est plus compliqué pour un coach, mais
Bah oui, parce que au final, un groupe, c'est une addition de 24 individualités, finalement, à gérer presque individuellement. Ouais. Et c'est pas forcément la somme des valeurs, la somme des talents qui va faire que l'équipe va bien tourner.
Ouais, non, mais c'est sûr, hein. Puis chaque joueur est différent, c'est compliqué. Il y a un joueur où faut lui rentrer dedans, un autre où faut lui parler gentiment. Après, faut connaître aussi un peu sa vie, faut savoir s'il a passé une bonne journée aussi. Faut être proche des joueurs pour tout ça. Et puis surtout, faut qu'au niveau football, il a envie de jouer au foot et prendre du plaisir. Et puis après, si le coach parle bien avec ses joueurs sur le style de jeu qu'il veut mettre en place et que les joueurs veulent, c'est gagné.
À ce propos, Romain, en tant que coach, tu apprends sur tes joueurs, mais est-ce que tes joueurs t'apprennent des choses sur toi?
Oui, énormément même, oui, c'est sûr.
Oui, parce que du coup, le Romain Rigallo qui démarre sa carrière d'entraîneur senior en R2 avant le Covid et le Romain Rigallo d'aujourd'hui qui est au 6e tour de la Coupe de France, il est différent?
Oui, ouais, parce que j'arrivais des jeunes, même si bon, j'ai connu les 17 R1, 18 R1, 19 R1. J'avais ce petit côté gentil quand je suis arrivé, je pense. J'ai voulu faire plaisir un petit peu à tout le monde. J'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons. Du coup, hein, quand on perd, on fait les mauvais choix. Et puis dans mes entraînements, j'étais trop gentil. Voilà, physiquement, je leur ai rentré un petit peu plus dedans et j'ai haussé un peu plus la voix aussi. Et il a fallu du temps, moi aussi. Je le reconnais. Et là, attends, c'est bon, impeccable.
Tout simplement parce que tu as pris confiance en toi aussi.
Ouais, tout à fait, c'est ça.
Parce qu'au début, donc, lorsque l'on n'a pas d'expérience, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie sportive, on essaye d'acheter la paix sociale, c'est-à-dire de pas trop marquer son territoire et de faire en sorte que l'ensemble fonctionne à peu près de manière unanime. Mais on sait très bien que c'est pas possible, qu'il y a des différences, des conflits parfois, et que tout ça, il faut apprendre à le gérer.
Ouais, il faut apprendre à le gérer, ouais, tout. Il y a toujours, voilà, dans les joueurs, il y a toujours des joueurs qui comprennent les choix, d'autres qui comprennent pas, qui viennent vous embêter un petit peu. Voilà. Et puis, bah, la chose aussi qui est sûre, c'est que je suis un tout petit peu plus vieux qu'eux, donc, ça joue aussi. Donc, je trouve ma place et puis, bah, après, je leur fasse comprendre que c'était moi le patron, tout simplement. Mais bon, ça se fait pas un claquement de doigts, ça, et ça a pris du temps Et maintenant, voilà, tout le monde se respecte et c'est très très bien.
Parfait. Et puis tout à l'heure, tu parlais de la préparation estivale. C'est un moment hyper important, la prépa.
Ah oui.
C'est le début de l'aventure.
Oui.
Qu'est-ce que pour toi finalement, c'est quoi pour toi une prépa qui est réussie? Ça finalement, la prépa finalement, elle est validée que par un bon début de saison. On sait à ce moment-là si elle est réussie ou pas.
Oui, c'est par les résultats, hein, tout simplement. Mais Bah déjà, moi, enfin, comme tout coach, normalement, on donne toujours une petite programmation.
C'est toi qui fais les entraînements du coup physique là, sur la prépa, ou t'as quelqu'un qui s'en charge?
Oui, c'est moi. Oui. J'ai toujours fait. J'ai jamais eu de préparateur physique. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. Et puis surtout, faut pas hésiter. Hein. Il faut leur rentrer dedans. Hein. Voilà. Faut y aller petit à petit, bien sûr. Une bonne prépa, c'est quand on se blesse pas déjà. Et puis, bah, si au mois de septembre on tient 90 minutes, bah, c'est que c'est gagné. Hein. Et bah là, cette année, écoutez. Il n'y a pas eu énormément de blessures, à part ceux qui sont revenus de très longue date, mais ça c'est logique. Il y a eu 2 ou 3 blessés musculaires, mais écoute, après les résultats ça va, ils tiennent plus de 90 minutes, donc puis de temps en temps on en remet un coup. On a commencé donc fin juillet, on a fait 5 semaines de préparation avec des matchs amicaux, c'était intense, on était à 4 entraînements par semaine plus des fois un match, ça faisait 5. Voilà, faut faire attention aussi, faut avoir de la récupération de temps en temps. Et puis, bah, c'est un suivi avec les joueurs, hein, c'est un questionnement, hein, par moment.
Oui, c'est aussi un retour de sensation de leur part vers toi, et puis finalement, c'est une communication.
Oui, c'est hyper important de leur demander, hein, surtout. Hein, voilà, faut pas trouver, faut être à la limite de la rupture, quoi. C'est voilà. Puis, bah, il y a des fois des matchs amicaux où bon, on perd largement parce que bah, on est rendu sur cette fameuse 3e semaine où c'est hyper dur.
Oui, tout à fait. Et puis en face de toi, peut-être que l'équipe a repris une semaine avant, donc peut-être qu'elle est en avance, ou alors elle a joué le match de plus que de préparation, qui fait que physiquement elle est un peu plus en avance.
C'est ça, exactement. Ou ouais. Justement, nous on est au niveau de la fatigue, on est hyper haut, et puis bah après, quand la fatigue passe, ça redescend, on se sent beaucoup mieux. On encaisse mieux les 15-15 et 30-30. Ils vont rigoler quand ils vont faire ça,
Bon, en tout cas, c'est sûr que je m'y collerai pas sur les 15-15 et les 30-30.
Non, mais oui. Non, puis voilà, le renforcement musculaire aussi est très, très important. Et puis, voilà, tout est important dans la préparation. C'est les étirements, tout.
Et d'ailleurs, je me suis toujours posé une question. Quand on arrive fin août avec ce premier tour de la Coupe de France, quand on est une équipe de R2 qui va jouer contre une équipe de D2 ou D3, est-ce qu'on considère finalement que c'est peut-être le dernier match amical, ou est-ce que on est vraiment sur le premier match officiel et la prépa elle est terminée?
Alors moi je le considère comme un match amical, même s'il faut le gagner. Mais c'est un peu comme, c'est encore une fois français, parce que je sais que les équipes de France, quand elles attaquent une Coupe du Monde ou quoi, généralement, elles arrivent sur ce premier match où c'est pas le meilleur match. Le 98. Ou même s'ils avaient gagné 3-0, mais
ouais, l'Australie de 2018, 0-0.
Ouais, ça monte en puissance. Au troisième match de poule, ils sont vraiment bien. Ils calculent vraiment à partir des 8e de finale. Bon, moi, c'est pas un calcul, hein. Mais c'est vrai que ce premier match de Coupe de France, on le compte. Enfin, moi, je le compte comme un match amical, effectivement.
Ouais. Parce que, à ton avis, du coup, la Coupe de France, elle arrive un peu tôt dans le calendrier?
Ouais, elle arrive très tôt. Elle arrive très tôt. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein. C'est comme ça.
Elle arrivait quand? C'était en juillet ou en août?
Non, fin août.
Fin août. Ouais, tout à fait. Après, on était un des seuls clubs à rentrer au premier tour du niveau.
Bah oui, parce que c'est vrai que quand je suis allé chercher votre parcours, moi, je me suis vraiment intéressé à partir du 3e tour. Eh bien, je pensais que vous étiez rentré au 2e tour, mais non, finalement, premier tour. Parce qu'il y a des R2 qui sont rentrés au 1er tour et d'autres qui rentrent au 2e.
Ouais, mais il me semble que dans notre secteur, on était les seuls.
Et comment c'est défini, ça?
Je pense parce que l'année d'avant, on a perdu dès le 1er tour.
D'accord, ok. Mais pas un 1er tour obligatoire.
Voilà, tout à fait. Maintenant, on a le mérite d'être au 6e tour.
Et puis, c'est comme ça, ça vous fait un match amical à pas chercher.
Exactement.
Romain, on arrive au terme de cette émission. Donc, que on va se quitter dans quelques instants. J'aimerais que Christian puisse avoir une dernière question peut-être à te poser, peut-être Christian.
Bon, alors moi j'ai pas forcément une dernière question, j'en ai posé suffisamment je pense, mais super. Et puis surtout féliciter le club de Verpin pour sa page Facebook qui est super bien alimentée avec des photos vraiment fun pour les buteurs. Enfin moi c'est toujours un régal de parcourir leurs réseaux sociaux et donc je voulais vraiment féliciter le club pour tout son dynamisme.
Bah, merci beaucoup, merci à vous deux, c'est très sympa.
Romain, merci encore d'avoir accepté notre invitation. On te dit à très bientôt et on se rappellera peut-être en fin de saison pour qu'on fasse un bilan, d'accord ?
D'accord, merci beaucoup à vous deux, c'est très sympa. Bonne soirée,
merci. Merci beaucoup Romain, bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Et bon match.
Merci.